faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Oui, l'œil du tigre.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Ancien combattant, militant socialiste et bistrot.
Là, il a marqué un point.
C'est de dire si dans ma vie, j'ai entendu des conneries. Il est comme ça, jamais, jamais, jamais.
À l'affiche ce soir, c'est l'histoire d'un gamin de Constantine, surnommé plus tard le nageur d'Auschwitz. Et c'est l'un des plus beaux palmarès de la natation française. Oui, ce soir, c'est le destin à la fois tragique et extraordinaire d'Alfred Nakache. Entre la brasse et le papillon, voici la 35e étape de notre grand safari au pays de la culture de masse.
Il nous prend pour des bourriques.
Oui, 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 yes, papa.
Ça, c'est un excellent...
Burger Winter is coming.
Dans 15 jours, le week-end du 18 mai, le Temple mondial des nageurs à Lauderdale, en Floride, va enfin, oui, enfin, honorer la mémoire d'Alfred Nakache, lui qui était au bord de tomber dans l'oubli, alors qu'il est un des héros du sport du XXe siècle. Rendez-vous compte, après avoir éliminé les Allemands au JO de Berlin en 1936, sous les yeux d'Hitler et de Goebbels, après avoir survécu à Auschwitz, il participa au JO de Londres en 1948. C'est époustouflant et il était grand temps qu'il entre dans ce musée mondial en Floride. Et alors ce soir, pour se souvenir ici d'Alfred Nakache, deux invités au micro d'Inter. D'abord, elle est grand reporter à l'équipe et elle connaît bien la vie d'Alfred Nakache. Céline Noni, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue. Et puis vers 18h30, nous passerons un coup de fil à Toulouse. Oui, à Toulouse, où vit la nièce d'Alfred Nakache, Madame Yvette Benayoun Nakache. Mais juste avant le nageur de Constantine, nous arriverons l'insubmersible Dominique Besnéard et sa vedette ce soir s'appelle Joan Crawford. Icône hollywoodienne. Et enfin, juste avant 19h, bien sûr, le Give Me Five signé Joy Raffin. Salut Joy.
Salut Colin, bonsoir à tous.
Alors au programme ce soir.
Eh bien, du premier footballeur gay aux crevettes pailletées, la lutte contre l'homophobie dans le sport, c'est loin d'être gagné, hein, mais on va essayer.
Eh bien, à tout à l'heure. Et surtout, n'ayez pas peur et soyez les bienvenus dans L'Œil du Tigre.
L'Œil du Tigre, Philippe Colin sur France Inter.
Alors, ce soir, on commence avec le comeback de l'Ajax Amsterdam, une résurrection qui valide ce célèbre dicton du football européen, à savoir que les grandes équipes ne meurent jamais. Car mardi soir, l'Ajax a battu Tottenham et va sans doute se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Une renaissance après des années d'errance. Et c'est l'occasion ce soir de se souvenir de celui qui incarne le club à jamais, le merveilleux Johan Cruyff, dont voici le portrait en flashback dans une atmosphère très, très années 80.
Au début des années 70, un vent et un homme nouveau se sont levés sur le football mondial. Le vent vient du nord, des Pays-Bas. L'homme s'appelle Johan Cruyff. Il est le fils d'une marchande de légumes d'Amsterdam. Sa silhouette est longue, mince et flanquée. Ses cheveux longs et raides. Dès qu'il s'est fait connaître, Cruyff a emprunté ballon au pied des chemins buissonniers. Et c'est ainsi qu'il a fini par incarner un football d'attaque, un football total, qui contraste alors avec les pratiques de prudence et d'avarice généralisées à peu près partout dans le monde. Avec l'Ajax Amsterdam, son équipe, son club, Cruyff va faire exploser tous les ghettos défensifs. Il obtiendra 3 ballons d'or et l'Ajax 3 titres européens. 1974, c'est la Coupe du Monde en Allemagne. C'est ici et maintenant que Cruyff va bâtir sa légende. Johan et ses équipiers orange vont déferler comme un commando sur la compétition. Uruguayens, Bulgares, Argentins, Allemands de l'Est et Brésiliens vont subir tour à tour leur loi. 14 buts marqués pour les oranges, dont 3 signés Johan Cruyff. Les oranges crachent tout leur jus et c'est un régal.
Le jus des oranges. Voilà, le jus des oranges. Dans les années 80, décidément, on n'avait peur de rien. Lui, dans les 80s, il côtoyait déjà le firmament et à l'instar de l'Ajax. Avec lui, demain ne meurt jamais. Avec lui, la vie est éternelle. C'est l'heure du Dominique Besnéard.
C'est fou la vie.
Ce soir, Dominique, une actrice immortelle.
C'est une icône hollywoodienne. Immortelle, oui. Aux côtés de Gloria Swanson,
Greta Garbo ou Marlène Dietrich. La vie, la carrière, le personnage cinématographique de Joan Crawford sont dominés par l'ambition. Elle veut réussir sa vie à tout prix et tous les moyens sont bons pour y parvenir. Rappelons le beau mot de Bette Davis à son sujet. Elle a couché avec toutes les vedettes masculines de la MGM, sauf le sien Lassie.
Une vraie teigne, hein, cette Bette Davis. Alors, on ne sait pas quand est née réellement Joan Crawford.
1904, 1905 ou 1908, selon ses humeurs.
Eh oui.
Lucille Fay Le Sueur grandit dans un milieu très modeste. Très jeune, elle est marquée par le divorce de ses parents et par un accident qui l'oblige à garder le lit pendant un an. Mais Lucille rêve de devenir danseuse. Après des études quelque peu décousues, elle aborde la carrière qu'elle s'est choisie en se produisant dans des revues et des cabarets. En 1924, alors qu'elle est une girl parmi bien d'autres, dans Innocent Eyes, elle est remarquée par un dénicheur de talent de la MGM. Elle débute à l'écran comme doublure de Norma Shearer, magnifique actrice qu'elle retrouvera 15 ans plus tard en co-vedette de The Woman de George Cukor.
Et alors Joan Crawford s'extirpe, Dominique, de sa condition.
Oui, à force de volonté et de chance, avec un soupçon d'intelligence, elle sort de l'anonymat en incarnant une jeune délurée de l'ère du jazz dans Les Nouvelles Vierges en 1928. Mais son ambition ne se contente pas avec ce mince succès. Joan est bien décidée à entrer dans la cour des monstres sacrés d'Hollywood. Avec l'aide de son maquilleur, du photographe George Ourel et du grand couturier Adrian, elle modèle complètement son image. La caméra ne pouvait ainsi manquer de s'amouracher d'elle. Un visage carré, une bouche large et bien dessinée, des yeux immenses qui dévorent tout autour d'elle et accrochent la lumière et l'attention. Ainsi naît la nouvelle Joan Crawford.
Et ça paye cash, Dominique.
Absolument, son acharnement est récompensé puisqu'elle culmine en tête du box-office tout au long des années 30. Se sachant peu faite pour des films en costume, elle se consacre au mélodrame moderne où elle excelle dans des rôles de femmes fortes et indépendantes auxquelles s'identifient les Américaines. En 1943, après 60 films et son deuxième divorce, Joan Crawford résilie son contrat avec la MGM et quitte le studio par la porte de service. Son retour 2 ans plus tard sera fracassant. Sous la direction de Michael Curtis, elle tourne en 1946 le roman de Mildred Pierce chez Warner et impose son talent d'actrice parfois contesté. Sa prestation est couronnée par l'Oscar de la meilleure actrice et inaugure une nouvelle phase de sa carrière, une période de la maturité dans des films plus sombres. Deux temps forts émergent de la dernière partie de sa carrière. Johnny Guitar, l'insolite western de Nicolas Ray, où elle campe une tenancière de saloon, et Qu'est-ce qui est arrivé à Baby Jane, où elle affronte son éternel rival, Bette Davis.
Et revoilà Bette Davis. Et puis, une fin de vie assez inattendue, Dominique.
Oui, mariée en quatrième noce, hein, avec le roi du Pepsi-Cola, Alfred Steele, elle révèle une femme d'affaires redoutable à la mort de celui-ci. Après la disparition de Joan en 1977, sa fille adoptive, Christina, déshéritée quelques années plus tôt, publie une biographie féroce intitulée « Maman très chère ». Ce témoignage deviendra un film en 1981 avec Faye Dunaway dans le rôle de la grande actrice.
Et bien voici maintenant Joan Crawford qui fut aussi, et oui, aussi chanteuse.
Though you hold me in your arms tonight, will tomorrow bring the same delight? Though we love each other, how long will it last? You are like a burning flame to me. Will you always be the same to me? Though I taste your kisses, how long will they last? Whatever you may do, this heart of mine is true. I'll still believe in you, though love go past. With you, happiness and bliss appear. All my troubles seem to disappear. Yet my constant fear is, how long will it last?
Joan Crawford, chanteuse, donc, et précisons que la Cinémathèque de Paris a eu l'excellente idée, Dominique, de consacrer une rétrospective à Joan Crawford, dont vous pourrez redécouvrir ce mythe hollywoodien sur des écrans de cinéma. C'est à la Cinémathèque jusqu'au 27 mai. Il y a un livre aussi.
Et puis moi, je suis tombé sur un livre comme ça par hasard, qui est sorti il y a quelques mois, qui s'appelle 50 femmes de cinéma, de Véronique Lebris. Et je peux vous dire que j'ai quand même lu plein de témoignages sur des actrices dont on a parlé. Donc je l'aurais connu avant, j'aurais piqué les choses dans le livre.
Eh bien, merci beaucoup Dominique Besnéard. À la semaine prochaine. Voici maintenant l'histoire du dimanche soir. Encore une fois ce soir, le nom de ce grand champion du sport ne dira pas grand-chose à grand monde. Et pourtant, ce fut une gloire. Il compte parmi les nageurs qui possèdent l'un des plus beaux palmarès français et surtout, son destin est à la fois tragique et extraordinaire. Heureusement pour lui, dans 15 jours, le temple mondial de la natation à Lauderdale en Floride va enfin honorer la mémoire d'Alfred Nakache, surnommé le nageur d'Auschwitz et qui, au départ, n'aimait pas la piscine, son frère Robert s'en souvient très bien.
Il n'aimait pas la natation. Je dois vous dire que tout jeune, il détestait l'eau. Puis ensuite, grâce à deux militaires qui avaient participé au championnat de France de natation et qui ont fait leur service militaire à Constantine, il a réussi à aimer la natation. Et puis d'emblée, il a été magnifique. Il avait des qualités fantastiques en ce qui concerne la natation. Et à partir de là, il a brillé. Et tout de suite, dès 1931, il a été champion d'Afrique du Nord.
Deux ans plus tard, Alfred Nakache, jeune homme bronzé aux cheveux crépus qui masque parfois le sourire de ses yeux, quitte l'Algérie. Il a toutes les raisons d'être heureux, Alfred. Il vient d'être délégué par son club de Constantine pour participer au championnat de France qui se déroule à la piscine des Tourelles. Il découvre Paris et Paris le découvre. Le jeune inconnu qu'un speaker maladroit prénomme Artem se qualifie pour la finale et s'offre même le culot de talonner son idole, Jean Tarisse, le champion couvert de médailles qui demeure aujourd'hui encore le nageur le plus titré de la natation française. Alors qu'importe la traversée de la Méditerranée sur le pont du paquebot et le trajet Marseille-Paris en troisième classe.
La voix de Pierre Arditi dans ce très bon documentaire de Christian Meunier consacré à Alfred Nakache. Céline Noni, je rappelle que vous êtes journaliste à L'Équipe, vous connaissez bien la vie d'Alfred Nakache. Donc il est né en 1915 et il faut commencer par dire que c'est un gamin de Constantine en Algérie. À quoi ressemble le monde dans lequel a grandi enfant Alfred Nakache? C'est quoi la vie du petit garçon et de l'adolescent en Algérie?
C'est d'abord l'histoire d'une famille juive traditionnelle. Il est le cadet d'une fratrie de 11 enfants. Et c'est, comme son frère l'a dit, en fait c'est un gamin qui a vraiment la phobie de l'eau. Et c'est d'abord son père qui l'amène, effectivement, pour qu'il apprenne à nager et qu'il se batte contre cette phobie.
Alors, il arrive en France en 1933 pour les championnats de France en 1934. Il va finir deuxième, d'ailleurs, Jean Tarisse, qui est à l'époque la grande vedette de la piscine française. Il va aussi, je crois, c'est un peu grâce à lui que la nage papillon, la brasse papillon, va s'imposer en Europe. C'est pas lui qui l'invente, mais c'est lui qui va la mettre à la mode, cette papillon.
Non, c'est un Allemand, qui invente cette nage qui d'abord est une nage hybride, c'est-à-dire que la nage qui existe à l'époque c'est la brasse et lui a apporté cette nage qu'on a appelée la brasse papillon où effectivement au lieu de du retour des bras sous l'eau, le retour des bras s'effectue à l'air libre.
Hors de l'eau, c'est ça.
Exactement. Mmh. Et effectivement, Alfred Nakache va être un de ceux qui va réellement faire avancer cette nage. Il va vraiment la développer parce qu'il a des qualités physiques extraordinaires et notamment une puissance sur le haut du corps qui est
assez... Il est bâti.
Il est costaud. Effectivement très costaud. Mmh. Et d'ailleurs, il excelle dans toutes les nages. Hein. Il sera aussi d'ailleurs champion de France du 100 mètres, nage libre. Donc rôle, mais oui, c'est sur cette brasse papillon qui sera dissociée un peu plus tard, dans les années 50, où là, on passera à la brasse d'un côté et le papillon
de l'autre. Alors, premier rendez-vous dans son histoire d'homme, c'est 1936, au JO de Berlin, au Jeux nazis. Il se pointe là-bas avec l'équipe de France. Que va-t-il se passer dans la vie d'Alfred Nakache durant ces Jeux olympiques ?
pour lui, c'est évidemment, puisque c'est quelque chose qu'il n'a jamais caché, le fait d'être juif. Donc, le simple fait d'être aux Jeux Olympiques à Berlin, devant Hitler, puisque effectivement, notamment pour la finale du 4x200 mètres, le relais 4x200 mètres, Hitler est dans la piscine.
Et Goebbels. Les deux sont là dans la tribune.
Et les Français, dont Nakache.
Le juif, parce qu'ils savent qu'il est juif.
Voilà. Le juif, tout le monde sait qu'il est juif. Il ne s'en est ni caché. Et à cette époque-là, en plus, voilà, il l'assume parfaitement. Il l'a toujours assumé, d'ailleurs. Les Français vont terminer quatrième, certes au pied du podium, mais devant les Allemands.
Et oui, ils éliminent l'équipe du Troisième Reich, évidemment.
Exactement.
Et d'ailleurs, on voit sur les images, parce que les images disent que Goebbels et Hitler sont très très tendus, que les Français, avec le juif, ont éliminé leur équipe de natation. Ensuite, entre 1937 et 1939, 5 titres de champion de France, quand même, c'est pas rien. En 1939, il devient professeur de sport dans un lycée parisien avec sa femme, Paul, qu'il va rencontrer d'ailleurs. Et puis arrive la guerre.
Il est arrivé en fait pour passer son bac à 18 ans en France et il l'a passé à Janson de Sailly. Et quand il a passé son professorat d'éducation physique, il est sorti major de promo et a commencé à enseigner à Janson de Sailly.
Avec sa femme, donc Paul, avec qui il va se marier. Arrive la guerre et très vite, le maréchal Pétain va abolir ce qu'on appelle le décret Crémieux, qui a de lourdes conséquences pour les populations d'Algérie et juives, évidemment. C'est qu'en fait, en gros, il n'est plus français, il perd sa nationalité française. Ça a de très lourdes conséquences, évidemment, tout de suite dans la vie d'Alfred Nakache.
La première conséquence, c'est que il est viré de Janson de Sailly.
Il n'a plus le droit d'exercer.
Il n'a plus le droit d'exercer son métier, sa femme non plus. Mmh. Et il décide donc de passer la ligne de démarcation. Et ils ont plusieurs propositions à cette époque-là. Et ils décident d'aller à Toulouse.
Au TOEC, hein, qui est le club de natation de Toulouse.
Alors, il décide d'abord d'aller à Toulouse et effectivement, très vite, il intègre les dauphins du TOEC, qui, à l'époque, sont le meilleur club en France. Et reste un des meilleurs clubs, d'ailleurs, formateurs aujourd'hui encore. Et là, véritablement, il continue sa carrière, ou en tout cas il espère continuer sa carrière parce qu'il est vraiment à ce moment-là au top.
Et d'ailleurs, en 1941, il décroche un record du monde, du 200 mètres nage libre, qui est une sorte de bras d'honneur aussi à Vichy et aux Allemands. C'est que dans cette période très compliquée, il a un titre mondial, Alfred Nakache.
Oui, c'est d'ailleurs le seul record du monde individuel qu'il ait. Mais oui, c'est d'autant plus important pour lui que sa carrière à ce moment-là va un petit peu prendre des chemins de traverse, on va dire. Notamment en 1942, il est très très fort, il remporte 6 des 8 titres qui étaient mis en jeu chez les hommes. Mais l'année suivante est une année extrêmement compliquée. Les championnats de France sont censés avoir lieu à Paris. Mais lui ne pourrait pas y participer puisqu'il ne peut pas revenir sur Paris à cette époque-là. Donc, le président de la Fédération française de natation décide de transférer les championnats à Toulouse
pour qu'il puisse y participer.
Exactement. Sauf que là, la Gestapo s'en mêle et interdit à Nakache de participer. Et sa deuxième famille, on va dire, les dauphins du TOEC, disent bah, si lui ne participe pas, nous non plus.
Grand courage.
Grand courage.
C'est bien de le dire.
Exactement. D'autres nageurs ont suivi, d'ailleurs. Pas tous. C'est vrai qu'on ne se souvient plus trop de qui a gagné cette année-là. Mais voilà, il y avait quelque chose de beaucoup plus fort que le simple cas Nakache qui se jouait à ce moment-là.
Et être champion juif sous le régime de Vichy, ça se paye très cher. À commencer par la presse Collabo qui recycle des photos.
En 1938, Alfred avait fait la quatrième de couverture de match avec son regard souriant et la langue insolemment tirée aux sirènes de la gloire. En 1943, peut-être par la grâce d'un maquettiste revanchard, la même photo occupe la même place, mais cette fois-ci au dos d'un pamphlet haineux et abject, le grand magazine illustré de La Race. Alfred y devient le juif Nakache. On lui reproche d'avoir arboré l'emblème national. L'auteur, apparemment un peu honteux, reconnaît n'avoir vu en 1939 en Akash qu'un athlète de qualité et un équipier consciencieux. Sans doute ignorait-il alors qu'il était juif, mais il est bien décidé à se rattraper maintenant. Dans un style approximatif, il patauge quelque peu en déplorant comme un scandale que Nakache, juif constantinois, ait nagé pour la France et contre l'Algérie, son pays d'origine, et pour une nation qui n'est pas la sienne et dont le chef, avec un C majuscule, a décidé d'exclure les juifs. Il s'indigne donc qu'en 1942, le juif Nakache ait fait l'aumône d'un record du monde à la France, un cadeau que personne n'aurait dû accepter. C'était en 41, mais ce n'est pas là le plus grave. Il ordonne maintenant. Il ne faut pas que cela puisse se reproduire. Il faut en finir. Il importe, pour commencer, d'épurer le sport français de ses juifs.
Et évidemment, en 1943, c'est une nonie, la traque contre les juifs s'est intensifiée. Et à la fin de l'année, le cauchemar commence, puisqu'Alfred Nakache, avec sa femme Paul et leur fille Annie, sont arrêtés et vont donc être déportés à Auschwitz. Ça, c'est le début du cauchemar dans la vie d'Alfred Nakache.
Oui, avec, il faut le dire, même si ça n'a jamais été réellement prouvé, on a suspecté en fait une dénonciation, et plus précisément la dénonciation serait venue d'un nageur français que Nakache avait battu et qui lui était ouvertement pro-Hitler. Il s'était engagé dans la milice, et c'est vrai que ça, c'est un épisode assez troublant, mais effectivement la vie de Nakache bascule à ce moment-là.
Et quand il arrive à Auschwitz, l'officier SS est un nageur.
Le reconnaît.
Il reconnaît Alfred Nakache comme un swimmer, un nageur, et donc il le met à gauche et pas à droite, alors que sa fille et sa femme sont donc mis avec les vieillards pour être exterminés dès leur arrivée. Nakache l'apprendra que bien plus tard, il ne l'a pas su, il a espéré longtemps que sa famille soit survivante, mais lui s'est retrouvé donc infirmier au lazaret, hein, ce qu'on appelle l'infirmerie, et on va voir dans la seconde partie de l'émission ce moment tragique de la vie d'Alfred Nakache, avec des humiliations imposées par les officiers SS qui connaissaient du coup la valeur de ce champion européen. Tout de suite, c'est l'heure de l'orchestre sur Inter, emmené ce soir par Duran Jones and the Indications, le titre joué Morning in America. On aime ça, ainsi soit-il.
The trains in New York City roll thunder down the line. The teachers rise in Richmond as they sleep in San Antonio, while the harbor lights on Baltimore got nurses headed home. Maricopa
L'œil du tigre.
Entre 1934 et 1952, Alfred Nakache remporta 15 titres de champion de France, 9 records de France, 3 records d'Europe et un record du monde en nage libre et en brasse papillon.
Philippe Collin.
Son temps de 1,09,4 au 100 mètres demeura 12 ans record de France et 7 ans record d'Europe. Son temps de 2,36,08 sur 200 mètres reste à 9 ans record de France, 9 ans record d'Europe et 6 ans record du monde.
Sur France Inter.
Alfred Nakache, immense champion du XXe siècle, nageur juif de Constantine, a été déporté à Auschwitz fin janvier 1944 avec sa fille Annie et sa femme Paul, l'une et l'autre aussitôt exterminées dans les chambres à gaz. Transféré au camp de travail Auschwitz III, camp appelé Monowitz, où d'ailleurs il a sans doute croisé Primo Levi, Alfred Nakache doit alors affronter les avanies imposées par les officiers SS.
Les dignitaires SS en visite savaient parfois s'amuser des talents des déportés. Nakache, le nageur, racontait à son ami Séverin une des exhibitions auxquelles on l'a soumis.
Le général prend son poignard de parade, comme ils avaient tous, il le jette à l'eau et il dit « Cherchez !» Et Fred se met à l'eau et remonte avec le poignard entre les dents et le dépose aux pieds du général, aux bottes du général. Le général prend le poignard, l'essuie, le remet et s'en va en souriant. Parce que tout le monde avait une certaine admiration quand même pour ce gars-là qui avait battu un record du monde.
Céline Noni, je rappelle que vous êtes journaliste à L'Équipe et que vous connaissez bien la vie d'Alfred Nakache. Alfred qu'on a surnommé le nageur d'Auschwitz, pas pour ses humiliations insupportables imposées par les SS, mais pour toute autre chose, pour une notion de courage finalement durant l'été 1944, qu'a fait Alfred Nakache avec d'autres codétenus.
Le dimanche, presque tous les dimanches,
de,
en
l'été,
tout cas,
44.
De l'été 44, avec Noah Krieger, qui fut ensuite un journaliste hein, et notamment le correspondant, le plus vieux correspondant de L'Équipe en Israël, cachés par leurs compagnons, en fait, ils enchaînaient les longueurs dans les bassins de...
Dans les réservoirs anti-incendie,
exactement.
Donc tous les dimanches, c'était le jour de repos, entre guillemets, des déportés.
Des déportés.
De l'été 44, ils ont nagé comme une sorte de défi, finalement, à l'autorité et à l'enfer d'Auschwitz.
Exactement. Ouais. En fait, c'était vraiment ça. Ils l'ont vraiment vécu comme un acte de résistance.
C'était le cas, d'ailleurs, puisque le risque devait être gigantesque.
Alors... Évidemment, ils ne se sont jamais fait prendre, donc heureusement, on ne saura pas ce qu'auraient été les sanctions. Mais oui, il racontait que dans une interview de Noah Krieger, justement, lui racontait qu'il nageait pas forcément très bien, mais qu'accompagner Alfred Nakache était plus qu'un honneur et qu'effectivement c'était leur codétenu qui les protégeait. Ils se dépêchaient d'enlever leurs pyjamas pour aller nager et leur codétenu leur faisait le guet en fait.
Absolument. On va maintenant rejoindre Toulouse où nous attend au téléphone Madame Yvette Benayoun Nakache, la nièce d'Alfred Nakache. Bonsoir Madame.
Bonsoir.
Et bienvenue dans cette émission.
Merci.
Une première question toute simple, madame. Quel souvenir vous conservez aujourd'hui de votre oncle, Alfred Nakache ?
Oh, ce sont des souvenirs de petite fille, d'adolescente et de jeune femme, hein, puisque mon oncle a voyagé beaucoup. Il est parti à l'île de la Réunion, mais j'en conserve un souvenir d'une idole de la famille qui était respectée. D'un homme d'une corpulence et d'une morphologie extraordinaire et en même temps d'une gentillesse énorme. Voilà, c'était des souvenirs comme ça spontanément qui me viennent à l'esprit.
Alfred Nakache a longtemps vécu à Toulouse, là où vous êtes, madame. C'est une ville qui a beaucoup compté dans sa vie. D'ailleurs, une des grandes piscines de Toulouse porte son nom, la piscine Alfred Nakache. Est-ce qu'il est dans la mémoire des Toulousains et des Toulousaines aujourd'hui ? Est-ce que les Toulousains savent qui était Alfred Nakache, madame ?
Oh oui, absolument. D'ailleurs, Le 16 juin 2018, le maire de Toulouse a procédé au baptême officiel de l'espace nautique Alfred Nakache, parce que justement, il n'y avait jamais eu de manifestation en l'honneur d'Alfred Nakache, et toute la famille et toute sa descendance étaient regroupées. Ce fut un moment très émouvant et très important. Mais sur la question, oui, les Toulousains se souviennent, les vieux Toulousains, qui commencent bien sûr à disparaître, avec leur accent rocailleux, quand je les croisais, me disant qu'ils avaient appris à nager à Nakache, que Nakache leur avait appris à nager, ou bien les jeunes du quartier du Miral, du quartier dont je suis proche, qui, avec leur accent, disent on va nager à Nakache l'été. Effectivement, Toulouse
se souvient.
Bien sûr, se souvient. Et la piscine, donc maintenant l'espace nautique Alfred Nakache, est près du stadium et d'une zone de beaucoup de terrains de sport de différentes disciplines. Donc c'est un lieu bien connu et Nakache est bien bien connu. C'est, je dois dire, quand même une des fiertés, avec aussi la piscine Jani, avec d'autres points de d'autres bestes.
Jani était aussi
comme la piscine Albonneville. L'entraîneur célèbre des dauphins du TOEC. Oui, Nakache est un nom parmi les grandes familles toulousaines qui compte.
Madame, dans 15 jours en Floride, votre oncle sera intronisé dans ce qu'on appelle le Hall of Fame, qui est une sorte de temple mondial de la natation. C'est en Floride, à Lauderdale. Et j'imagine que toute votre famille est heureuse de cette célébration. Ça arrive un peu tard, mais ça arrive quand même. C'est une décision importante pour vous, j'imagine.
Oh, c'est une décision importante pour lui, pour sa mémoire, pour la mémoire de sa femme et sa fille, puisque lui est enterré à 7. Mais pour Toulouse, c'est une grande fierté. D'ailleurs, le maire l'a dit récemment. Et puis pour ma famille, notre famille, donc pour l'instant, je passe le devoir de mémoire, mais il y en a d'autres aussi qui le font, hein. Les enfants, mais les neveux, les nièces, son frère, William aussi, bon, qui réside à Toulouse, il en a encore deux sœurs. Donc, effectivement, c'est une grande fierté. Alors, personnellement, je ne peux pas m'y rendre. Il y a d'autres membres de la famille qui vont s'y rendre.
Quand même, j'espère.
Et aussi un fils qui est journaliste et qui va couvrir l'événement pour le journal La Dépêche du Midi et qui essaiera de ramener tout ce qu'il pourra ramener en photo et en film, peut-être. Voilà.
Et je crois qu'il y a aussi un événement à Toulouse qui arrive, hein, si je ne dis pas de bêtises, le 13
oui,
juin.
Non. Vous ne dites pas de bêtises, d'accord. Vous êtes bien informé.
C'est gentil, madame.
C'est une journée qui a déjà eu lieu l'an dernier parce que moult manifestations, des bassins qui portent son nom, un livre, deux films. Vous avez cité Le Nageur d'Auschwitz. Il y a aussi le film Nage Libre. Mais effectivement, on prépare avec la mairie de Toulouse, l'éducation nationale, les dauphins du TOEC et d'autres partenaires, la grande journée Alfred Nakache pour le jeudi 13 juin. Merci de me donner l'occasion de le dire. C'est un événement important qui s'adresse aux classes de CM2 avec le devoir de mémoire et puis comme support bien sûr la natation, mais pas que la natation. Il y a aussi des sports comme la boxe, puisque ce sont des valeurs sportives qui sont véhiculées par nombre de nos jeunes, hein, qui comptent. Et voilà, ça va être toute une journée de mémoire, mais aussi de différents ateliers sportifs basés sur la natation, bien sûr, et en collaboration étroite avec le directeur général et les dauphins du TOEC.
Très bien, et ce sera donc le 13 juin à Toulouse. Merci beaucoup, Madame Yvette Benayoun Nakache. C'était un plaisir de vous entendre ce soir dans cette émission. Céline Denis, il faut dire que Nakache va survivre à Auschwitz, même à la marche de la mort. Il va aller jusqu'à Buchenwald à pied. Il va peser 42 kilos à la sortie de cette Seconde Guerre mondiale. Et là, il n'a qu'une obsession, c'est retrouver le haut niveau. Il va beaucoup nager, il va décrocher un titre dès 1946. Mais surtout, Céline, ce qui est époustouflant, c'est qu'il va réussir à se qualifier pour les JO de Londres en 1948. C'est incroyable.
C'est incroyable. Je vais juste faire un petit rappel.
Allons-y.
C'est que avant son retour en France, des rumeurs de sa mort sont
arrivent jusqu'ici,
et notamment jusqu'à Toulouse. Des articles sont écrits pour
des nécrologies.
Des nécrologies sont écrites, notamment une de Monique Berliou qui, du coup, quand elle apprendra
qu'Alfred Nakache est survivant, mais surtout qu'il arrive à Toulouse, se rendra directement à la gare.
À la gare, pour l'accueillir.
Pour l'accueillir et lui dire, oui, alors j'ai écrit ça, mais...
C'est l'époque.
Et c'est aussi à cette époque-là, en 44, où du coup Toulouse inaugure la première
piscine
Alfred Nakache.
En mémoire
Du survivant.
Du mort qu'il n'était pas aussi. Voilà.
Exactement.
Donc, évidemment. Exactement. Et donc il va donc se retrouver au JO 12 ans après Berlin, donc en 48.
Oui.
Il se qualifie donc en natation et en water-polo. Il va être sixième en water-polo avec l'équipe de France, c'est quand même pas rien.
Mm-hmm.
Et ce survivant d'Auschwitz est dans la piscine des Jeux Olympiques de Londres. C'est quand même le plus beau bras d'honneur au nazisme quand même.
C'est un bras d'honneur incroyable. Mm-hmm. Il ne faut pas oublier aussi que juste avant, il battra un autre record du monde, qui est un record du monde particulier, puisque c'était un 3 fois 100 mètres, 3 nages, avec Alex Jani, qui a 15 ans de moins que lui, qui deviendra l'un des plus grands nageurs français. Qui était toulousain comme lui, donc avec Alex Jani et avec Georges Valeret. Et c'est un record du monde qui est aussi important parce que l'ambition d'Alfred Nakache, après ce qu'il a vécu pendant la déportation, n'est plus du tout une ambition personnelle, mais une ambition qu'il partage. Et donc il est presque plus à l'aise et plus impliqué dans ces épreuves d'équipe.
Et alors il faut aussi raconter une anecdote qui m'a beaucoup touché dans ce film de Christian Meunier. Willy Holt, qui est un des plus grands chefs décorateurs, le plus grand chef décorateur du cinéma français, était lui aussi déporté à Auschwitz parce que résistant, il était jeune, il avait 20 ans, il s'était fait attraper par la Gestapo. Il était avec Nakache à Auschwitz et à Buchenwald. Et Nakache était assez connu, hein, champion du monde de natation, dont la Croix-Rouge lui avait offert un colis supplémentaire au titre de sa notoriété. Et voilà ce que fait Nakache. Ils sont quatre codétenus. Il va diviser le colis en quatre et prendre la plus petite part pour lui. Et Willy Holt dit, quand on sort d'Auschwitz-Birkenau et qu'un type fait ça, vous pouvez en croire, un tout petit peu croire en l'humanité, c'est toute la bonté de Nakache quand même de ce partage de ce colis de la Croix-Rouge. C'est assez fantastique. Quand Willy Holt le raconte, on a les larmes aux yeux, en fait.
Exactement, exactement. Ça fait partie des anecdotes, d'ailleurs. Il y en a une autre dans le film qui est tout à la fin et qui est, je trouve, tout aussi merveilleuse. Ses amis, alors qu'il habite à Cerbère, ses amis racontent qu'un jour, un couple d'Allemands tombe en panne d'essence. Et en fait, Nakache s'éloigne et revient avec un jerrycan d'essence. Et au moment où il donne le jerrycan, il relève sa manche et montre son matricule. Et de ce que racontent les amis de Nakache, le couple était à la fois à blémi et évidemment à saluer et ils se sont serrés la main. Et ça fait sans doute partie aussi, malgré tout ce qu'il a vécu, malgré tout ce qu'il a subi, il a réussi à pardonner.
À pardonner, tout. C'est ce que des amis disent. C'est qu'en fait, à ce moment-là, Nakache pardonne. Et c'est ce que dit Simone Veil. C'est-à-dire que la culture européenne après la Seconde Guerre mondiale, c'est la réconciliation. Elle est obsédée par ça, Simone Veil. Et c'est vrai que Nakache, en allant chercher ce jerrycan d'essence pour ce couple d'Allemands qui est en vacances, et c'est un geste, c'est très beau, quoi. C'est un geste très, très humain. On va écouter les amis d'Alfred Nakache, qui parlait de lui pour essayer de le décrire un peu. Alors, qui était Alfred Nakache pour les amis d'Alfred ?
Quand je pense à Alfred Nakache, je pense à Charlie Chaplin, car il marchait comme Charlie Chaplin, et à Henri Salvador, il avait le rire d'Henri Salvador, et c'était... Bon, on n'avait pas besoin de le pousser.
Voilà, Charlie Chaplin et Henri Salvador, c'est assez beau comme duo,
comme mélange.
Évidemment. Nakache, il est mort en 83, un peu comme Molière sur scène. Il est mort en nageant, Nakache, d'une crise cardiaque dans le port de Cerbère. C'est une fin à la fois tragique et en même temps assez belle quelque part, non ? Qu'est-ce que vous en pensez, Céline Noni ?
C'est effectivement, ça fait penser à Molière, parce que Nakache a continué à nager
toute sa vie.
Il allait nager un bon kilomètre tous les jours. Et effectivement, c'est comme ça qu'il, enfin, c'est en tout cas dans l'eau, qu'il a eu son accident cardiaque. C'est assez incroyable aussi, d'une certaine manière, de se rappeler que cet enfant de Constantine qui avait peur de l'eau, finalement, a essayé de vivre toute sa vie dans cet élément-là.
Et il y est mort.
Et il y est mort.
Par ailleurs. Pour terminer, Céline Noni, donc dans 15 jours, donc en Floride, dans ce temple qu'on ne connaît pas trop en France, mais c'est important pour la natation mondiale, donc c'est à Lauderdale en Floride, Nakache va donc rentrer, on en parlait tout à l'heure, dans ce Hall of Fame. C'est important qu'il y soit, il faut le redire, c'est un endroit qui n'est pas
oui,
anodin.
Oui, c'est important, c'est un endroit qui n'est pas anodin. Et quand on regarde la liste qui est immense des champions qui ont été honorés, il n'y a que 9. Il sera le 9e Français à entrer dans ce panthéon de la natation mondiale. Il va y rejoindre d'ailleurs les deux relayeurs avec qui il avait eu le record du monde, Alex Jani et Georges Palray.
Ça c'est beau aussi.
Et ça c'est beau, il y rejoint aussi Jean Tarisse, qui était donc le grand champion quand lui a commencé sa carrière. Donc oui, c'est quelque chose qui veut dire beaucoup de ce qu'il est, de ce qu'il a été et de ce qu'il a représenté pour ce sport.
Et aujourd'hui, il est enterré à 7 et sur la pierre tombale, il y a donc le nom de sa fille, Annie, et de sa femme, Paul, qui sont morts à Auschwitz. Ils sont tous les trois réunis quelque part sur cette pierre tombale. Merci à vous d'être venu ce soir, c'est venu nous parler d'Alfred Nakache. Je rappelle que vous êtes grand reporter à l'équipe et qu'on peut lire vos excellents papiers dans ce très bon journal du sport. Ne quittez pas l'écoute car voici maintenant le Give Me Five, Joy Raffin.
L'œil du tigre.
Rebonsoir Joy.
Rebonsoir Colin, rebonsoir à tous.
Alors que trouve-t-on ce soir dans ce Give Me Five ?
Eh bien sans conteste, ce soir je dois commencer par un immense big up, et Céline ne me contredira pas, au magazine L'Équipe, qui après France Football il y a quelques jours, met en une deux sportifs en train de s'embrasser. Et cette fois il ne s'agit pas d'une œuvre d'art et de footballeur, mais d'une photo de deux joueurs de waterpolo. Alors pourquoi du waterpolo ? Il faudra attendre mon conseil culturel et la fin de ma chronique pour le savoir.
Très bien.
Voilà, mais L'Équipe s'engage contre l'homophobie, hein, pas récente mais incessante, malheureusement, dans le sport, en revenant notamment sur l'histoire du footballeur britannique et noir, Justinus Sonu Fashanu, premier footballeur professionnel à avoir déclaré en une du Sun « Je suis gay ». Donc c'était en 1990, et le 2 mai 1998, Fashanu, qui avait connu alors depuis son coming out des hauts et surtout des bas, que ce soit dans sa vie sportive hein, ou personnelle, s'est suicidé. Il avait 37 ans. La vie de celui qu'on surnommait Fash the Flash a été mise à l'honneur dans un documentaire il y a quelques années, réalisé par sa propre nièce, hein, Amal, qui a fondé aujourd'hui la Justin Campaign et se bat maintenant depuis plus de 20 ans pour la cause homosexuelle dans le sport, sans véritable avancée quand même, faut bien l'avouer. Alors à défaut de voir les lignes bouger aussi vite qu'on le voudrait, on doit se souvenir de Fashanu, saluer sa mémoire et ne pas l'oublier. Parce que depuis son histoire, aucun footballeur professionnel en activité n'a jamais annoncé qu'il était gay.
Jamais, en effet.
Voilà. Alors peut-être qu'il n'en existe aucun, hein. C'est peut-être ça en fait. Ou alors que tous les sportifs homosexuels font du waterpolo. Parce que donc voilà, écoutez la fin de ma chronique, je vous ai dit. En attendant, big up à L'Équipe.
Oui, bravo à L'Équipe en effet pour ce numéro spécial contre l'homophobie dans le sport. La suite, Joy, Game of Thrones et le football, ça continue.
Ah oui. Dimanche dernier, en première division du championnat de foot russe, le Lokomotiv Moscou affrontait le Yenisei Krasnoyarsk. Et à cette occasion, les ultras du club ont eu l'idée assez dingue de créer un tifo sur lequel apparaît un homme déguisé en Night King, donc l'un des personnages principaux de la série Game of Thrones. Le roi de la nuit, donc c'est vraiment le plus grand des méchants de la série, a été aperçu sur le trône de fer dans une tribune de la RZD Arena, le stade de Lokomotiv Moscou. C'est assez flippant, mais vraiment, regardez les images, mais visiblement payant, puisque l'homme déguisé, donc il a fait tout le match comme ça, l'homme déguisé en roi de la nuit a permis au club moscovite de battre le FC Yenisei 2-1.
Eh oui, Night King, le roi de la nuit. On reste en Russie où décidément on n'a pas manqué d'idées pour animer les stades de foot cette semaine.
Oui,
j'aime beaucoup l'histoire qui vient, alors allons-y.
Alors c'est le site Football Stories qui nous raconte cette semaine que Lénine a fait une drôle d'apparition dans un stade russe. La ville d'Ulyanovsk en Russie, plus connue pour être la ville de naissance de Lénine que pour son équipe de foot, parce que franchement, bon, son troisième division, a fait parler d'elle en arborant un maillot spécial à l'occasion du 149e, donc c'est même pas un contre-on, non, c'est pas, du 149e centième anniversaire de la naissance de Lénil, la seule célébrité locale. Donc à l'occasion du match entre le Volka Ulyanovsk et Tcheliabinsk, les joueurs de l'équipe locale portent un maillot sur lequel figurait à l'avant le portrait de l'ancien dirigeant communiste et dans le dos le numéro 149 avec le nom de Lénine. Alors en plus, pour vraiment tout bien faire, une personne ressemblant fortement à l'ex-dirigeant soviétique a donné le coup d'envoi du match avec sur le dos cette fameuse tunique. Et pour parfaire cette soirée, hein, parce que bon, fallait bien quand même, le club d'Ulyanov, hein, qui n'est autre que le nom de Lénine, a gagné 1-0. Bravo.
Bravo à Lénine. Et sinon, sport et culture, un nouveau prix vient d'être créé, ça te réjouit.
Ouais, voilà, juste pour vous dire que le premier prix Bulle et Sport récompensant, vous en seriez douté, une BD consacrée au sport vient d'être décernée à l'album de Ruben El Rincón et Manolo Caro, El Boxeador, paru aux éditions du Long Bec. Voilà, El Boxeador, c'est un album concept vraiment sublime, qui est très beau, qui peut se lire en fait depuis le début ou depuis la fin, parce que le climax de la BD, il se trouve au centre du livre. C'est là qu'il y a le combat, voilà, qui va opposer les deux boxeurs sur le ring. C'est assez original. Donc on est content du palmarès et on est content tout simplement que ce prix existe désormais.
Et alors, pour finir, Joy, outre El Boxeador, qu'il faut lire évidemment, conseil culturel du jour, on t'écoute.
Eh bien, je vous en parle depuis le début de cette chronique. Cette semaine, allez au cinéma voir des hommes en slip de bain. Et alors non, il ne s'agit pas du grand bain. Voilà, vraiment. C'est mieux.
C'est mieux.
Je vous le dis,
c'est mieux.
Allez voir Les crevettes pailletées de Cédric Le Gallo. La bande-annonce se passe de mots.
Excusez-moi, c'est ici l'association homosexuelle pour l'intégration, la tolérance et le respect dans le water polo.
On ressemble à une bande de PD.
Je ne sais pas, non.
Et voici.
Vous avez rencontré notre nouveau coach? Vous le reconnaissez pas? Mathias Le Goff, champion du monde d'homophobie.
Bon, allez, vas-y, lâche-moi le cul, pédé, toi, arrête la caméra, c'est bon.
Il a donc été décidé de conditionner la participation de Mathias Le Goff au prochain championnat du monde à une mission d'intérêt général au sein d'une association sportive homosexuelle.
3, 4, on va vous décortiquer, on est les crevettes aguées.
Il aura la responsabilité d'entraîner pendant 3 mois.
Vous allez faire 200 mètres en rétropédalage, ça va vous calmer.
Faites-toi la rétropédale.
Avant de les conduire en Croatie aux Gay Games.
C'est quoi les Gay Games?
C'est comme les JO.
En moins chiant, avec que des beaux mecs.
Et le nom, vous avez trouvé ça comment?
Dans la crevette, le meilleur c'est la queue. Et puis avec des paillettes, c'est encore mieux.
D'accord.
Et voilà.
Non mais vraiment c'est super. Donc là oui, tout est drôle dans la bande-annonce, mais il y a aussi des choses vraiment belles et touchantes, puis les valeurs portées sont magnifiques. Alors que vous dire de plus si ce n'est que Les crevettes pailletées en fait s'inspirent de l'histoire vraie de Cédric Le Gallo, un membre de l'équipe parisienne des crevettes pailletées, un club de water polo où l'on accueille absolument tout le monde. Les crevettes pailletées en fait, le film, c'est un road movie sportif et festif porté par des acteurs qui sont vraiment formidables. Un film qui prône l'amitié, la tolérance, le droit à la différence, à la bouffonnerie aussi, il faut bien le dire.
Oui.
Voilà, et ça fait un bien fou. Et puis ça peut aider à faire évoluer les mentalités dans le sport et à lutter contre l'homophobie et le racisme et toutes les autres formes de discrimination, quelles qu'elles soient, en se marrant. Eh ben, c'est que c'est brillant.
Voilà. Les crevettes pailletées au cinéma à partir de mercredi prochain. Un film qu'il ne faut pas manquer. Merci beaucoup, Joy. À la semaine prochaine. Salut.
De rien, avec plaisir. Bye.
Merci à toute l'équipe de L'œil du tigre. Il y avait François Audouin ce soir aux manettes. Merci François. Assisté de Stéphane Beaujat. Merci à lui. Merci à toute l'équipe de L'œil du tigre. Arnaud Jamin qui prépare cette émission avec moi. Et Margot Page qui était là ce soir. On se retrouve la semaine prochaine avec le récit de 7 vies. Les 7 vies du judoka Thierry Rey, champion olympique en 80 au JO de Moscou en pleine guerre froide. Thierry Rey viendra nous raconter son destin peu commun. D'ici là, passez une excellente soirée et une excellente semaine. On vous attend dimanche prochain dans L'œil du tigre sur Inter à 18h. Salut et fraternité.